Radio. Campus. Paris.
Lundi 27 mai, il est 18h et bientôt 34 secondes. Vous écoutez Radio Campus Paris en FM et sur le web. Et 18h, c'est toujours l'heure de la relève.
La relève, un lundi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Bonsoir, doit-on encore dire bonsoir quand il fait encore jour dehors? C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Enfin bon, comme tous les 15 jours, la relève c'est 30 minutes avec un nouveau talent. Aujourd'hui on va parler de statistiques et de bord de mer. Mon invité est écrivain. On dit bonsoir ou bonjour, Noam Seltzer?
Bon, là, quand je vois le temps qu'il fait dehors, je pense qu'on dit bonjour.
Alors, merci d'être avec nous à Radio Campus. Vous êtes l'auteur de « Les chaînes de Marcof » aux éditions Gallimard. Vous aviez déjà écrit deux pièces de théâtre, donc l'une est, j'imagine, plutôt pour enfants, puisque c'est à l'école des loisirs.
Oui, c'est une pièce pour enfants. Encore que, on me dit que si les enfants sont trop petits, ça ne marche pas très bien. Plutôt pour petits adolescents, on va dire.
Et vous aviez aussi écrit une pièce pour adultes au solitaire intempestif, mais là, c'est votre premier roman. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la forme du roman? Commence dur, hein, direct.
Ah, c'est une question théorique tout de suite sur la différence entre le roman et le théâtre. En fait, dans le roman, on a une grande liberté que nous n'avons pas au théâtre, c'est d'être tyrannique avec notre lecteur. Quand vous écrivez une pièce de théâtre, vous savez très bien que les metteurs en scène, les metteuses en scène, les acteurs, les actrices vont s'en emparer et rajouter des strates de complexité et leur propre sensibilité, leur propre interprétation à ce que vous avez écrit. Dans le roman, si vous décidez de prendre le regard de votre lecteur et qu'il s'arrête pendant 12 pages sur une poignée de porte, vous avez le droit à cette tyrannie-là. Et du coup, le roman, c'est j'avais un peu envie d'essayer de cette chose-là.
Vous aviez envie de vous arrêter sur la poignée de porte?
Pas arrêter sur la poignée de porte, parce que là, j'en ai pas mis de description de poignée de porte pendant 12 pages. Mais ouais, il y a un truc où, quand on écrit un roman, on est garant de tout. On est garant du rythme, on est garant de là où se focalise le regard du lecteur. Et je voulais essayer cette chose-là.
C'est-à-dire qu'il n'y a ni metteur en scène, ni acteur qui vont venir interférer avec ce que vous écrivez.
Ouais,
juste le lecteur.
Exactement. Et puis bon, par ailleurs, il y a le grand truc qui rend possible le roman, qui est le monologue intérieur. C'est-à-dire qu'on peut mettre un dialogue et puis en même temps, on peut faire l'analyse très longue de pourquoi une personne a dit 4 mots.
Et est-ce que c'est l'histoire qui vous a imposé la forme? C'est vrai que là, je sais pas pourquoi je pars théorique, on sait même pas de quoi parle le livre, mais c'est pas grave, allez-y.
Est-ce que l'histoire a imposé la forme?
En tout cas, l'histoire, vous pouviez pas la raconter, vous aviez pas envie de raconter cette histoire-là en pièce de théâtre? Vous
non.
Auriez pu.
J'aurais pu, mais en fait, ça aurait pas marché. Je pense qu'il y a une...
Moi, j'aurais écrit une mauvaise pièce, vous êtes un homme de théâtre, donc vous voyez que...
Mais j'aurais aussi écrit une mauvaise pièce, parce que en fait, il y a un fait auquel je crois, c'est que le naturalisme et le réalisme passent pas la rampe du plateau de théâtre. Alors qu'en fait, la psychologie, le réalisme, parler des choses concrètes de l'existence, ça marche très bien dans le roman. Dans le théâtre, ça fait un peu s'écrouler les acteurs, en tout cas je trouve. On s'ennuie un peu quand les acteurs ils sont naturalistes et quand les pièces le sont. Alors que le roman, moi les romans réalistes, les romans psychologiques, je trouve ça extraordinaire.
Je vous laisse expliquer ce qu'est une chaîne de Marcof, puisque c'est le titre du livre.
Alors,
moi, je crois avoir compris, mais je préfère que ce soit vous qui l'expliquiez.
Pour la faire très courte et ne pas faire la version qu'on peut faire dans
c'est
une classe
de prépa.
C'est
vrai qu'après la théorie du roman, maintenant les mathématiques.
Alors, une chaîne de Marcof, pour la faire très courte, c'est un arbre de probabilité. C'est un processus mathématique de probabilité, où on observe les caractéristiques du présent, et à partir de l'observation des caractéristiques du présent, on déduit, grâce à des calculs, la probabilité de certains événements futurs. Pour donner un exemple hyper concret de ça, les météorologues font tous les jours des chaînes de Marcof pour prévoir est-ce qu'il va faire beau ou pas demain ou dans 10 jours.
Moi, ce que j'ai pas bien compris, c'est que dans les chaînes de Marcof, ça veut dire que le futur n'est pas déterminé ou qu'il est très déterminé? Parce que moi, j'avais cru comprendre au départ, je suis désolé pour les gens qui nous écoutent, mais moi, j'ai besoin de comprendre. Et j'avais cru comprendre qu'en fait, c'était quelque chose d'indépendant. Quoi, en fait. Chaque état est indépendant du suivant et je ne suis pas si sûr que ça. Donc elle est...
En fait, les chaînes de Marcof permettent en fait de mesurer dans quelle mesure le futur il est déterminé. C'est-à-dire que en plein mois d'été, un météorologue peut faire une chaîne de Marcof pour savoir quel temps il va faire demain. Et bah, il peut avoir une probabilité qui avoisine les 100%, il peut être assez sûr que le lendemain, il ne va pas faire moins 4 si on est à Marseille ou même d'ailleurs à Paris, il ne fera pas moins 4 en plein mois de juillet. Et donc, les chaînes de Markov, elles permettent de connaître les événements à l'avance si on n'essaie pas de chercher trop loin et si on a, si on a les caractéristiques du présent de manière très claire.
Vous, vous l'appliquez à une histoire d'amour. Vous l'appliquez pas vraiment, c'est pas un livre théorique. Hein. Faut quand même qu'on rentre dans l'histoire. C'est la rencontre d'Ezra, et d'Ève. Et donc le roman, c'est vous raconter finalement leur histoire et vous montrer comment. C'est ça, c'est que comme s'il se passe certains événements à un temps T, en T plus 1, il ne peut pas se passer le contraire. Quoi. Il y a quelque chose de très un peu déterministe quand même.
Oui, il y a un truc déterministe. En fait, c'est même un des grands enjeux du livre, c'est que le personnage principal voit des chaînes de Markov partout et voit du déterminisme partout. Et donc, même dans sa relation naissante, où il tombe amoureux de cette fille, qui tombe aussi amoureuse de lui, il essaye de lire dans les caractéristiques de leur présent amoureux, ce qui est la naissance passionnelle d'une histoire d'amour, il essaye de voir les indices déjà d'une dégradation potentielle du système dans 6 mois, dans 3 ans, et il le fait dès le début, cette chose-là déterministe et un peu catastrophiste.
Mais ça, c'est... Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment l'idée vous vient. C'est que vous-même, on n'est pas chez le psychanalyste, hein, je ne veux pas vous raconter votre vie, mais est-ce que vous-même, ça vous est arrivé dans votre vie de vous dire, de votre vie sentimentale, vous avez dit, oui, en fait, là, j'aurais dû le voir dès le début ou...
Oui.
C'est ça qui m'est arrivé. Et donc, du coup, après coup, vous avez vu cet outil mathématique, vous vous êtes dit, tiens, c'est un truc rigolo, il y a un truc à tirer.
Ça m'est arrivé dans ma vie, ça s'est arrivé dans la vie de à peu près tous mes meilleurs amis, de se séparer de quelqu'un et de savoir que la raison pour laquelle on s'est séparé, on savait au bout du 6e jour de la relation que ce serait cette chose-là, cette incompatibilité entre les deux personnes qui ferait qu'on se séparait. En fait, on le sait, l'amour, ça, c'est un truc super chouette qui fait qu'on arrive à se faire oublier à soi-même cette chose-là, cette incompatibilité des caractères, cette chose qui, sur le temps long, ne peut que mener à la rupture et à la destruction du couple. Mais pendant un certain temps, parce qu'être amoureux, c'est chouette, pendant un certain temps, on arrive à cacher et à même ne pas voir cette chose-là. Évidemment, cette chose-là, elle revient.
Alors, ils se croisent en salle des profs. Lui est prof de maths, elle est prof de lettres. On ne sait pas grand-chose d'autre de leur vie amoureuse d'avant. C'est pas trop s'ils ont aimé, pas aimé. Alors elle, on la connaît par ses sœurs et lui par ses rapports avec ses parents. Vous les avez volontairement créés comme ça. Vous auriez pu, évidemment, un romancier choisit toujours ce qu'il dit de ses personnages. Là, elle, on la connaît presque plus par ses sœurs que par sa vie intérieure et qui est inaccessible.
Oui, en fait, je trouvais ça intéressant d'un point de vue littéraire de ne pas rompre le pacte du bouquin écrit à la première personne. Et du coup, on n'a pas accès aux pensées d'Ève, à part par ce qu'elle dit, à part par ce qu'Ezra pense d'elle. Ezra, le personnage principal, il fait tout un tas d'élucubrations et il essaie de savoir ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent tout le temps dans le livre. Et à part aussi par sa famille, parce qu'on apprend beaucoup de choses d'elle en apprenant des choses sur sa famille. Mais elle, nous n'aurons pas accès à sa psyché, qui c'est pour qu'elle reste au lecteur aussi mystérieux qu'elle reste à pas mal de moments pour Ezra.
Et est-ce que vous, pour l'écrire, vous avez eu besoin de plus savoir qui elle est, ou est-ce que même pour vous, elle reste un mystère?
Il y a un truc, c'est que quand...
Est-ce que vous, quelque part, vous avez écrit, comme on dit maintenant, une Bible dans une Bible, Ève, elle est comme ci, comme ça, elle a mangé son... Elle aime pas ça, elle aime ci, ou est-ce qu'elle vous reste mystérieuse?
Elle me reste mystérieuse parce que cette chose-là existe, ces documents existent, j'ai mes petits documents Excel sur lesquels il y a des informations sur les personnages.
On va aller fouiller votre ordinateur.
Par pitié, surtout pas. Mais ces documents-là existent, mais en vérité, ils ont assez peu d'importance parce que un livre, moi, ce que je découvre, c'est qu'il a, il a sa propre logique. Et du coup, à partir du moment où une information ne figure pas, n'est pas écrite dans le livre, c'est un peu comme si elle n'existait pas vraiment. Et du coup, si la psychologie d'Ève et son flux de pensée n'est pas présenté, n'est pas écrit, n'est pas montré au lecteur, a priori, c'est qu'on ne l'a pas. À partir du moment où ce n'est pas écrit, ça veut dire que, d'une certaine façon, moi, je ne l'ai pas non plus.
Ça s'appelle Les chaînes de Markov. L'amour, c'est une chaîne. C'est une question que je me suis posée en lisant le livre. C'est un hasard que vous ayez choisi ce théorème mathématique-là plutôt qu'un autre ?
C'est pas un hasard du tout. Je trouvais ça intéressant que ça s'appelle des chaînes. Évidemment, parce que c'est un lien et qu'une chaîne aussi, c'est évidemment une chose qui retient et c'est une chose qui empêche. Évidemment, on ne peut pas. Moi, le fait que ce soit une forme d'esclavage ou en tout cas d'emprisonnement, enfin en tout cas tout le champ lexical qu'on peut mettre autour des chaînes était très important pour moi.
On sent bien que par moment il est un peu enfermé, Ezra, hein.
Ouais, ben en fait ce qui moi m'intéresse un peu dans ce titre là c'est que lui justement il se voit enchaîné à ses formules mathématiques, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à voir le monde autrement qu'à travers ces formules mathématiques. Il y a plein de moments où moi je le trouve très intelligent, ce Ezra, mon narrateur, je l'aime bien, mais il y a aussi beaucoup de moments où il est complètement enchaîné à cette vision du monde. Il n'arrive pas du tout
à lâcher prise, il connaît pas très bien.
Exactement, il n'arrive pas à lâcher prise, il n'arrive pas à être dans le présent.
Il a besoin d'une petite appli de méditation.
ouais, peut-être que ça lui ferait du bien. Peut-être. Ouais, je pense qu'il détesterait ça.
J'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, vous avez quelque chose contre la mer ? Parce que alors, les deux week-ends qu'ils passent au bord de la mer sont des catastrophes. Et en particulier en Normandie. Moi, je ne dis rien, mais j'espère que le Conseil général de Normandie ne nous écoute pas.
Alors,
visiblement, la Normandie n'est pas bonne pour l'amour.
Alors, c'est plus compliqué que ça pour moi. Alors, plusieurs choses. La première chose, c'est que je fais partie de ces gens qui, si de façon binaire, dans l'existence, il faut faire un choix entre la mer et la montagne, je fais partie des gens qui choisiront toujours la montagne.
D'accord.
À choisir entre la métaphysique de l'horizon infini de la mer et la métaphysique de la grandeur écrasante des montagnes, je préfère les montagnes à la mer.
Et vous préférez la montagne en été ou en hiver ?
J'adore tout le temps la montagne, mais je pense que je la préfère encore en été. Parce qu'en hiver, c'est extraordinaire la montagne, mais ça fait un peu plus peur. Et je suis quelqu'un d'assez... Enfin, bon, j'ai peur en montagne, comme tout le monde, mais l'été, pas trop, à vrai dire. Alors que l'hiver, c'est dangereux, en fait. Les avalanches, ça peut tuer.
Revenons à vos personnages, quand même, parce qu'ils passent deux week-ends à la mer.
Revenons à mes personnages. Ouais, ouais. En fait, je suis pas... Alors, moi, je dirais pas que j'ai... Pour le coup, moi, j'ai rien contre la mer. Au contraire, le...
Vous avez quelque chose contre la Normandie.
Non, c'est que...
Je plaisante.
C'est que, en fait, là où... À la limite, ce que j'en pense, moi, on s'en fiche, mais mon personnage, Ezra, il n'est pas comme moi. Lui, il adore la mer. Et il pense qu'en allant là où il va, c'est-à-dire à 40 ans, dans le Cotentin, mais aussi à Fécamp, pas très loin d'Étretat, pour les auditrices et auditeurs qui connaissent, il pense que c'est sur des plages sous un ciel gris, en hiver ou en automne. Il pense que sur ces étendues-là un peu mélancoliques, dans ces lieux qui ne sont pas des lieux de villégiature très marrants, il pense que c'est là que l'amour existe le plus possible. Il pense que le vent s'engouffre dans les brèches du cœur à ce moment-là et qu'on ne se sent jamais aussi proche de quelqu'un que quand on marche sur une plage l'hiver en Normandie et qu'on tient la main à quelqu'un qu'on aime. Là-dessus, j'ai tendance à... Je sais pas, je le comprends un peu dans cette idée-là. Sauf que, bon, évidemment, lui, il, quand il va sur ses plages en Normandie avec Eve, lui, il veut absolument vivre son moment de grâce amoureuse. Et il ne fait pas du tout cas du fait que Eve, dans ces moments-là, bah, pas forcément, quoi. C'est pas... Et bon, ça pose une autre question qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus terrible. C'est que le problème en amour, c'est la question de la synchronicité. C'est que, est-ce qu'on ressent l'émotion amoureuse extrêmement intense en même temps, ou est-ce qu'on la ressent en décalé ? Et en fait, le problème de la mère pour Ezra et Eve, mes deux protagonistes, c'est que ça leur fait ressentir l'émotion amoureuse en décalé.
Alors justement, puisqu'on parlait de montagne à l'instant, j'avais pas prévu, mais ça tombe bien. Vous écrivez un moment, vous écrivez « Une histoire d'amour s'apparente à une promenade au bord d'un précipice ».
Ouais, ben ça, je pense que c'est un peu vrai, sauf si on...
Allez-y.
En fait, il y a un moyen qui est vieux, qui est même millénaire, pour qu'une histoire d'amour ne s'apparente pas à une promenade au bord d'un précipice, c'est le mariage. Si vous croyez vachement au mariage, que vous le faites de manière sacrée, quelle que soit votre religion, que ce soit un mariage laïque ou religieux d'ailleurs, si vous entérinez de manière complètement définitive par ce pacte le fait qu'il ne peut pas y avoir de séparation, que c'est inenvisageable, que ce n'est pas dans l'ordre des possibles, et bien à ce moment-là, Une histoire d'amour cesse d'être une balade au bord d'un précipice. Bon, il faut croire à cette sacralité de l'alliance, du mariage. Mais dans tous les autres cas, si vous ne croyez pas à cette espèce de pacte sacré qu'on fait un jour, si vous ne le passez pas, ce pacte définitif éternel avec un être, bah a priori, chacun des deux parties a le droit de rompre la relation à tout moment. Et du coup, une histoire d'amour, c'est très beau, mais c'est quand même une balade au bord d'un précipice, parce qu'il suffit de dire à quelqu'un « je te quitte », même si on est avec la personne depuis 27 ans, suffit de dire « je te quitte », c'est terminé, et en 2,5 secondes, c'est fini. L'histoire s'achève.
Alors moi, ce que je vais vous demander, parce que j'avais une idée à la tête, c'est est-ce qu'écrire un roman d'amour, c'est aussi se promener au bord d'un précipice ?
Dans quel sens ?
Bah, est-ce que, quand vous l'avez écrit, c'était quelque chose de dangereux ? Est-ce que, parce qu'on a peur des clichés, par exemple ? Est-ce que c'est difficile de trouver sa singularité ? Est-ce que c'est difficile de mener cette histoire au bout ?
Alors, quand on écrit, on ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe. Les personnages, ils ont leur autonomie et... Il y a une forme de danger dans le sens où on ne sait pas où ils vont aller. Par exemple, quand ils vont à Fécamp, tous les deux, Ève et Ezra, à un moment, Ève s'est barrée. J'étais en train d'écrire une scène dans un restaurant chez Nounout, où ils sont à Fécamp, ils mangent des fruits de mer, et ça se passe très mal, ils s'engueulent, ils sont bourrés, ça se passe très mal. À un moment, Ève se lève, en a marre, et se barre. Et je ne savais pas où elle était partie. Et... Du coup, Ezra a essayé de la chercher, et en fait, quand Ezra la cherchait, moi-même, je la cherchais. Je ne savais pas s'il était allé sur la plage de Fécamp, s'il était allé au casino de Fécamp, je ne savais pas si elle s'était barrée juste de Fécamp en prenant un bus ou un taxi. Bref, quand vous laissez vos personnages avoir de l'autonomie, vous courez en permanence le risque, d'une part, qu'ils vous échappent complètement, et d'autre part, qu'ils disent des conneries absolument ignoble et ordurière que personne voudra publier ou lire. Et du coup, vous prenez ce risque-là. Mais bon, en même temps, si vous prenez pas ce risque-là, vous pouvez pas écrire le livre, parce que c'est à cet endroit-là que l'écriture elle est intéressante pour l'auteur. C'est qu'en fait, c'est quand des personnages deviennent autonomes et qu'ils font leur vie, qu'on leur laisse faire leur vie et qu'ils nous apprennent des choses sur eux-mêmes.
On parle d'amour, de mathématiques, mais est-ce que c'est pas aussi un roman social, les chaînes de Markov ? Moi, c'est l'exemple que je suis posé, parce qu'il y a quand même... Ils viennent de deux milieux sociaux très différents, et finalement, ça compte beaucoup. J'avais prévu de lire un passage, je vois que le temps tourne. Je sais pas si j'aurai le temps, mais je vais prendre celui-là, parce qu'il y a un moment où vous parlez d'Ève, et vous dites, elle est de ceux qui ont gagné la lutte des classes depuis qu'ils sont nés, qui veulent, en plus de leur aisance financière, en plus de leur agilité intellectuelle, en plus de leur supériorité culturelle, en plus de leur supériorité esthétique, parce qu'ils savent comment s'habiller, comment marcher, comment parler agréablement, et sont, ne mentons pas, plus beaux que les autres. En plus de tout ça, jamais rassasiés, jamais repus de leur domination, ils cherchent la supériorité morale, la seule au moins, qui devrait leur être inaccessible pour toujours. Et vous ajoutez, intelligence pratique du christianisme radical qui envoie les riches en enfer, au moins ça. Là, oui. C'est très engagé, ça.
C'est très engagé, c'est ce que...
Et là, c'est vous qui parlez, c'est peut-être Ezra.
C'est Ezra qui parle à ce moment-là. Moi, je parle pas dans ce roman, il n'y a que le narrateur Ezra qui parle. À ce moment-là, il ressent de la part d'Ève un
Attendez, parce que un peu quelques pages plus tard, elle lui dit... Excusez-moi, on l'a lu. Mes parents sont des salopards égoïstes, mais ils ont au moins le sens de la grandeur, de l'histoire, des constructions humaines qui peuvent exister par-delà les existences individuelles. Ils ont le sens de l'honneur. Les gens comme vous n'ont le sens de rien. On vous a dit que vous alliez travailler toute votre vie pour payer le crédit d'une voiture laide et d'une maison laide et manger de la merde dans de supermarché. C'est l'histoire du Tarama. Et aucun d'entre vous ne s'est suicidé. Toute amélioration notable du destin de l'humanité sera toujours bloquée, empêchée par vous. C'est très politique, ça, pour le coup.
C'est très politique. En fait... Ce que je trouve intéressant dans cet énervement très fort, cette colère d'Ève, c'est que, dans ce mépris qu'elle a à ce moment-là, qui à des moments frôle l'antisémitisme chrétien, mais pas clair. Peut-être que c'est juste contre les classes moyennes qu'elle s'énerve. Enfin, pas clair ce qui lui passe par la tête à cet endroit-là. Ce qui est intéressant, quand elle dit les gens comme vous, ouais. Je ne sais pas ce qu'elle sous-entend. Bref, je ne peux plus lui demander. En tout cas, Ève. Pendant tout le bouquin, pendant tout le livre, pendant toute sa vie, elle est en rejet de sa famille de Kubeni, pour le dire un peu rapidement, cette famille catholique, un peu aristocrate de Besançon, aristocrate de province. Elle méprise ça, elle se pense très au-dessus de ça. Et en fait, à un moment où il s'agit de l'éducation de sa fille et de sa vie à elle, il y a un moment où ça lui revient. de manière complètement incontrôlée le mépris qu'elle peut avoir pour Ezra et sa famille, qui sont pas de ce monde-là aristocratique, et jaillit cette espèce de flot de paroles hyper condescendant, voire méprisant,
insultant.
Carrément insultant. Où elle dit les gens comme vous en fait, et elle dit ma famille, c'est vrai, c'est des connards, c'est vrai, c'est des salauds, mais n'empêche qu'ils ont le sens de la grandeur, ils ont le sens de l'histoire, ils ont le sens du temps long, et vous, les classes moyennes, vous ne l'avez pas. Et en fait, revient, chasser le naturel, évidemment, il revient toujours au galop, en tout cas, dans cette histoire, chasser la mémoire et l'héritage familial, et en fait, il revient, il lui revient dans la bouche, presque hors de son contrôle. Elle se haïrait d'une certaine façon, Eve, de penser des choses comme ça, mais elle le sent, elle le pense, elle le dit, parce que ça lui vient, quoi.
Alors, on va écouter un peu de musique maintenant, mais juste, je vais vous confier un petit exercice, puisque vous aimez faire des statistiques appliquées à l'amour. Aujourd'hui, on parle beaucoup de polyamour, et je voulais vous demander si, en termes statistiques, ça réduit ou ça multiplie les emmerdes de multiplier les partenaires, à votre avis ? J'ai bien noté, ça s'appelle les Bolus. Pardon, c'est en plus un nom imprononçable, j'ai bien choisi. Bolus Popul, Completely Half. Et ça, voilà, puis c'est bien prononcé mon anglais comme d'habitude. Et c'est sur la playlist, c'est sur la, je sais plus comment ça s'appelle, la playlist de Radio Campus Paris du mois de mai. J'ai tout raté, allez, on enchaîne. On On est toujours avec Noam Seltzer, l'auteur de Les chaînes de Markov, paru aux éditions Gallimard. Alors, le polyamour.
Bah, le polyamour.
Le mathématicien.
Aucun doute sur le fait que rajouter une variable dans une équation rend l'équation beaucoup plus compliquée.
Donc, si Ezra, Eve, il y avait un troisième ou une troisième, pouf.
Ça devient carrément impossible de faire des chaînes de Markov, tellement ça devient compliqué, je pense.
D'accord. Est-ce que qui sont les auteurs que vous aimez? Quels sont les grands récits d'amour qui vous inspirent? Est-ce que avant d'écrire ce livre, vous avez relu un livre qui pour vous est le maître étalon du roman d'amour?
Pour moi, le maître étalon de la personne qui a parlé d'amour, j'avoue que c'est Marcel Proust, ce qui n'a pas d'originalité, mais pour moi, il est à la fois le plus dense dans ce qu'il raconte et à la fois celui qui a écrit le plus long sur l'amour. C'est-à-dire que dans La recherche du temps perdu, il doit y avoir genre un bon quart qui parle d'amour sur 1000 pages, donc à peu près, qui parle d'amour. Et en plus, chaque page est plus dense que les autres qui parlent d'amour. Alors j'avoue que ouais, Proust est un maître, mais totalement impossible à prendre comme modèle parce qu'il est trop fort. Alors plutôt Philippe Roth, Milan Kundera ou Virginie Despentes dans les récents qui sont forts et plus atteignables.
Parce que vous n'avez pas forcément un style qui fait penser à celui de Proust, au-delà de ce que vous dites qui est le plus fort, ça se discute, mais bon, si vous voulez, c'est le plus fort, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais vous êtes dans un style, votre éditeur en quatrième de couverture, si c'est lui qui l'a écrit ou si c'est vous, je sais pas, des fois c'est les auteurs, parle d'ironie, mais je trouve qu'il n'y a rien d'ironique chez vous parce que vous êtes plutôt tendre, alors que l'ironie est quelque chose qui est un peu, qui fait penser à du vinaigre, d'acide. Vous n'êtes pas du tout acide, vous?
Non, je pense pas. Le
vous êtes plutôt amusé, vous regardez ça avec amusement.
Ouais, moi je regarde avec un amusement tendre, effectivement. Effectivement, mon style n'a absolument rien à voir avec celui de Marcel Proust. Je pense pas qu'on puisse en 2024 écrire comme écrivait Proust. Ça n'aurait pas de sens parce qu'on pense pas comme quelqu'un pensait en 1921. Et du coup, on peut pas écrire comme quelqu'un écrivait en 1921. Ça n'aurait pas même de sens d'essayer parce que juste le rapport au monde plus fragmentaire qu'on peut avoir aujourd'hui n'est juste pas le même. Donc on pourrait pas écrire pareil, ça c'est sûr.
Je ne voudrais pas qu'on termine cette émission, il y a déjà, je vois l'heure qui tourne. Est-ce que finalement, ce que vous aimez le plus dans ce roman, vous, comme auteur, c'est pas Oncle Robert et Florence, pas encore plus?
Ah, ça c'est une vraie bonne question.
Enfin, il était temps.
Non, pardon, ne vous inquiétez pas pour dire que les questions d'avoir été
bien. Je plaisante.
Très bien. Ouais, j'ai beaucoup
on sent que vous les aimez, ces deux-là.
Beaucoup d'affection pour eux. Et même pour Sibyl. En fait, ces trois personnages secondaires.
Alors, Robert, dites un peu qui sont. Ils
alors,
sont
Robert, le vieil oncle alcoolique d'Ève, donc le bel oncle d'une certaine façon, d'Ezra, qui fait tout mal, qui trompe sa femme et qui est bourré au dîner de famille. Sibyl, qui est présentée comme la femme la plus ennuyeuse du monde.
Qui est surtout très lucide,
mais qui est d'une lucidité incroyable. Moi, quand elle a commencé à faire ses monologues que je n'avais pas prévu d'écrire, elle m'a appris tout un tas de choses et je l'ai trouvé tellement plus pertinente que Ezra et Eve dans sa vision de l'amour. Et Florence, qui est la femme de Robert, celle qui aime malgré tout. C'est-à-dire, Florence, elle n'a aucune raison d'aimer Robert. Robert, il est sale. Robert, il est alcoolo. Robert, il fait tout mal. C'est même elle qui paye les charges d'électricité à la maison et c'est quand même lui qui la trompe. Et bah, Florence, je sais pas pourquoi. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle aime Robert. Et pour ça, je l'admire énormément parce que elle fait aussi. C'est un écho aussi à mon couple de base dans le roman, qui est Ezra et Eve. Florence, elle aime, mais on ne sait pas pourquoi elle aime, et elle aime de manière beaucoup plus entière et inconditionnelle que Ezra et Eve.
Il se trouve que depuis que j'ai lu votre livre, j'en lis en ce moment un autre qui s'appelle Aube d'Andrew Ritker. Il y a un moment, il y a un passage où un des personnages qui demande pourquoi les couples qui durent. Et c'est pas très bien dit. Et la réponse, c'est que les couples qui durent le plus longtemps sont ceux où chacun attend le moins de l'autre, finalement.
Ah, ça, intéressant.
Ça vous dit quelque chose de Florence et de Robert?
Oui, je pense que effectivement Florence, elle n'attend rien de Robert à part le fait de passer le plus de temps possible avec lui parce que tout simplement, elle l'aime.
Bientôt du théâtre, vous continuez le théâtre? Il vous reste 10 secondes pour ça.
Je continue le théâtre. Là, il y a une pièce que je viens de finir d'écrire qui s'appelle La Cavale, qui va être jouée au théâtre de l'Athénée en novembre. Et du coup, c'est là-dessus que je bosse en ce moment.
Vous avez participé à la mise en scène, vous allez être associé?
Oh là, non, surtout pas. J'espère que. Non, moi j'écris simplement.
D'accord. Merci Noam Seltzer d'être passé par le studio de Radio Campus Paris. Je rappelle que vous êtes l'auteur des chaînes de Markov aux éditions Gallimard. La relève était présentée, préparée par Christophe. La réalisation était assurée par Pablo, toujours à l'heure. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site de Radio Campus Paris avec tous les podcasts des émissions précédentes. Et voilà, à 19h, c'est la matinale. Bonne soirée. Et j'ai débordé de 4 secondes. Bonne soirée, au revoir.
Au revoir.